Oui, je vais commencer par les dernières questions qui sont d'abord, qu'est-ce que je pense de la séparation dont il est question entre les banques de détail et les banques d'affaires? D'accord? Il est vrai que, et notamment aux États-Unis, mais en France aussi, que, aux États-Unis existait à la suite de la crise de 29, avait été votée une loi qu'on a appelée le Glass-Steagall Act, qui sépare les activités des banques d'affaires des banques de détail. Et puis petit à petit, dans les années 70, avec la politique libérale et la montée des marchés financiers, en fait, s'est constitué, quand il y a eu la montée des marchés financiers, beaucoup de personnes se sont posées la question justement, est-ce que les banques qui sont là pour collecter l'épargne et octroyer des crédits, est-ce que les banques vont disparaître puisque les marchés financiers prennent une telle importance? Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les banques, loin de disparaître, ont multiplié leurs activités et sont même devenues ont, comment, ont rajouté à leurs activités beaucoup d'activités de marché, justement. Et donc, les banques sont devenues des acteurs extrêmement puissants sur les marchés financiers, hein. Donc, à côté de leur activité traditionnelle de banque de détail, elles ont développé ces activités de marché et s'est développé notamment aux États-Unis, mais en France aussi, tout un secteur qu'on a appelé le shadow banking, c'est-à-dire le secteur bancaire parallèle, où des institutions pratiquaient la même chose que les banques, mais des activités bancaires, mais sans être réglementées, sans être sous la supervision des autorités bancaires et sans subir les ratios prudentiels auxquels sont imposées les banques. Ce secteur s'est tellement bien développé qu'il a atteint la même taille, s'il n'a pas dépassé la taille du secteur bancaire réglementé, hein, ce secteur-là. En effet, je pense que une grande partie des risques se sont matérialisés au moment justement où ces activités se sont multipliées et ont amené à des prises de risques extrêmement importantes, ce qui fait que quand la crise a explosé, ça a entraîné une contagion, ça a entraîné l'ensemble des secteurs financiers et le reste dans la crise. Effectivement, je suis pour cette séparation de la banque de détail des banques d'affaires. La question qui est posée, et sans vouloir être technique, parce que là, ce n'est pas tellement une question technique, mais juste pour. Au Royaume-Uni, la commission Vickers, du nom de son président, a proposé, et ça a été adopté, une séparation, mais qui n'est pas une séparation totale. C'est-à-dire, c'est une séparation des activités, mais au sein. Les activités donc d'affaires étaient, ou la banque de détail était filialisée en dehors, mais ça restait dans la même banque. Donc d'où la discussion qu'on a un petit peu en France aujourd'hui sur est-ce qu'il faut la séparation totale, c'est-à-dire deux banques séparées, ou est-ce qu'il faut la séparation des activités avec une muraille de Chine au sein d'une même entité. Personnellement, je suis pour la deuxième proposition, c'est-à-dire une séparation totale, et je m'explique en quelques secondes, simplement, je ne serai pas technique ni trop longue. Je considère que dans la séparation dans la même entité est un peu compliquée. D'abord parce qu'il peut toujours y avoir des détournements et c'est toujours très difficile de savoir comment ils vont trouver un moyen de contourner pour arriver à la liquidité des banques de détail. Ça s'est fait quand on voit tous les jours des banques et des traders dire « Ah, mais soi-disant il a fraudé, on ne savait pas, sa hiérarchie n'était pas au courant, mais il a utilisé telle et telle chose », moi je ne considère pas que c'est... des personnes qui sont individuellement responsables, même si des personnes peuvent être parfaitement malhonnêtes, je considère que c'est des systèmes qui sont mal faits ou bien faits, ça dépend qui profite du crime. Mais je ne considère pas que c'est une question juste de fraude, je considère que ce sont des systèmes qui sont conçus pour permettre ce genre de choses, premièrement. Et deuxièmement, je dois dire, comme je travaille beaucoup moi sur les banques, je pense qu'il est extrêmement difficile de séparer, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'il y a des activités. La frontière entre les activités et les métiers des banques sont très difficiles à déterminer et elles s'entrelacent. Et dans ces entrelacs, il y a des activités qui peuvent relever de l'un ou de l'autre et donc c'est extrêmement difficile. On le voit par exemple au niveau de la Commission nationale de la formation statistique, on cherche des informations. Très difficile de séparer les activités. Il y a des activités qui relèvent aussi bien d'un métier que de l'autre ou des opérations qui relèvent aussi bien d'une activité que de l'autre. Hein. Donc c'est pour cette raison-là que je suis pour la séparation stricte. Dans des entités séparées avec des réglementations. Et la pire des choses, ce serait que les banques de détail continuent à être réglementées et sous supervision, alors que toutes les autres échappent. Donc il faut faire très attention pour dire que la réglementation, elle doit s'appliquer à l'ensemble des entités, quelles que soient les activités et les formes. Parce que, par exemple, la règle Volcker aux États-Unis, qui consiste à dire, bon, ben, les banques, elles vont être réglementées. Et puis, de l'autre côté, elles ne pourront plus faire du trading en nom propre, ben ça c'est pas très bien parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que toutes les activités de trading vont passer justement dans le shadow banking qui lui n'est pas réglementé de façon externe et puis pourront faire ce qu'ils veulent, mais le risque est aussi grand que ce soit dans une unité qui soit une institution bancaire formelle ou pas. Donc il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas des pans entiers qui échappent à la réglementation. Et j'en reviens à la question qui est que ce ne sont pas des questions, encore une fois, de ratio technique. Bien sûr, il faut connaître. Bien sûr, je cherche des yeux de la personne qui m'a posé la question, mais bien sûr, il faut connaître, bien sûr, il faut réglementer. Mais avant tout, ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment est-ce que ce sont des systèmes, parce que ce ne sont pas des personnes, juste des personnes, ce sont des systèmes qui permettent ce genre de choses, et comment il faut changer ces systèmes pour qu'ils ne permettent plus ces choses-là et qu'ils fonctionnent autrement, c'est-à-dire non pas en vue uniquement de la rentabilité des actionnaires, ici des banques, ou du profit de quelques fonds spéculatifs, mais comment est-ce qu'il faut changer les systèmes pour qu'ils fonctionnent de façon à servir l'intérêt du plus grand nombre. C'est en ces termes-là qu'il faut poser la question. Et ça, juste des lois et des réglementations ne sont pas suffisants à mon avis. Alors, il y avait une deuxième question qui était qu'est-ce que je pensais des eurobonds? Alors, ce que je pense des eurobonds, d'abord, il y a deux niveaux. Peut-être qu'au tout départ, hein, au tout début de la crise, quand il s'agissait uniquement de la Grèce par exemple, peut-être que ça aurait pu constituer une solution si on avait épongé l'ensemble et fermé et terminé, si on était interne. De toutes les manières, bon, on peut se poser cette question, mais de toutes les manières, il est trop tard. Trop tard aujourd'hui, c'est plus la question, elle n'est plus à l'ordre du jour. Mais dans la conception même des eurobonds, ce qui me gêne, c'était deux choses. C'est toujours deux choses. C'est un, c'est que ça ne sort pas la question des États, de la domination des marchés financiers, puisque les eurobonds sont placés sur les marchés financiers, et que moi je pense qu'il faut sortir justement de la domination de ces marchés financiers. Donc je pense que maintenant la Banque centrale doit aider directement, venir au secours des États directement, sans passer par les marchés secondaires, parce que les eurobonds, qui va les souscrire? Qui va les prendre? Ce sont les banques. Hein? Et donc on reste toujours sur cette question-là. Donc je pense maintenant qu'il faut soustraire cette question à la domination des marchés et des banques, d'une part. Et la deuxième question qui était posée à l'époque, mais qui a été malheureusement, ce que je me posais à l'époque, c'était de me dire qu'avec des eurobonds, surtout si les eurobonds étaient sans pays, c'est-à-dire c'était un fonds qui allait émettre des titres et il y aurait une mutualisation, c'est-à-dire on ne verrait plus la différence entre les eurobonds seraient à la fois allemands, grecs, tout ce qu'on veut. Donc, qui permettait d'éviter cette spéculation juste par rapport à un pays donné, mais il faut savoir que ces eurobonds n'auraient pas été émis sans qu'il y ait un droit de regard important sur les politiques budgétaires des pays. Mais vous voyez bien qu'il y a 2 jours, ils ont tranché en inscrivant la règle d'or directement, et même le 9 décembre, les décisions qui ont été prises soumettent d'ores et déjà et longuement les politiques budgétaires à la supervision de la Commission européenne et des autres instances européennes. Et je pense que là, il y a un problème par rapport... voilà, aux États et au fait qu'ils puissent avoir leur propre maîtrise à la fois de la politique monétaire et budgétaire, ou alors il faut aller dans une autre conception de l'Europe qui est beaucoup très différente de celle qui existe aujourd'hui.